remue-ménage. Remue-ménage, c'est Ondes Femmes sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93,8. Bonjour et bienvenue dans Remue Ménage. Radio Zone 93.8, c'est le début des émissions d'Ondes Femmes de 17h à 23h en direct, comme tous les mercredis. Alors aujourd'hui, je vous propose la rediffusion d'un débat que nous avions eu avec 6 invités, réunis autour d'Odette Mudry et de moi-même. Odette Mudry avait interviewé, il y a environ 6 mois, Gabrielle Nanchon après la sortie de son livre « Amour et pouvoir ». Et nous avions envie de réunir des femmes différentes pour savoir ce qu'elles pensaient des propositions faites dans le livre de Gabrielle Nanchon. Ce livre « Amour et pouvoir » qui contient toutes sortes de propositions sur, à propos des femmes, à propos du mode de vie des femmes. Et alors que le pays discute de ce que les femmes veulent et ne veulent pas à la veille de cette grève du 14 juin, eh bien, nous vous proposons d'en parler.
C'est un livre finalement qui a suscité pas mal de controverses et peut-être brièvement pour, il faudrait peut-être rappeler parce que peut-être pas tout le monde ne l'a pas lu. Tu peux nous rappeler le titre, Catherine ?
Voilà, oui, je vous rappelle le titre que j'écris parce qu'il est long et que j'ai toujours peur de ne pas me rappeler dans toute son entité. Donc c'est « Amour et pouvoir, des hommes et des femmes et des valeurs ».
Voilà, alors Gabrielle Nanchon, qui après 10 années brillantes de vie politique au Conseil national, elle avait décidé de s'arrêter, de retourner à la maison pour s'occuper de ses enfants. Quand les enfants sont devenus grands, elle s'est dit pourquoi pas écrire un livre sur mon expérience, sur ce que j'ai vécu pendant ces 10 années de retour à la maison. Et son point de vue sur le rôle que la femme doit jouer dans la société a effectivement évolué. Et le thème général de son livre, c'est celui-ci. Il faut découvrir et revaloriser la part féminine qui est en chacune de nous, que ce soit un homme ou une femme, dit-elle. Et cette part féminine a pour nom solidarité, attachement à la nature, partage, attention à autrui. Alors, évidemment, tout ça a réveillé beaucoup de questions chez nous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a voulu en débattre avec des femmes différentes qui probablement auront les mêmes opinions ou ne seront pas d'accord. Ce sera en tout cas, on ne va pas s'attacher au livre d'une façon très mécanique, mais en tout cas, on va essayer de discuter à partir d'une ou deux réflexions que Gabrielle Nanchon a faites dans son livre.
Alors après une petite chanson, eh bien on se retrouve pour participer à cette discussion. Nous vous rappelons que si jamais vous avez envie de participer à cette discussion avec nous, vous pouvez toujours nous appeler en direct dans notre studio au 50 40 51 41 023 si vous appelez depuis Genève, 0033 depuis le reste de la Suisse romande.
Chubop, my baby, chubop, chubop.
Hello, stranger. It seems so good to see you back again. How long has it been?
Seems like a mighty long time. Chubop, chubop.
Seems like a mighty long time. Oh, mama,
Voilà. Alors, je vous présente tout d'abord, pour commencer, les femmes qui sont en notre compagnie cet après-midi autour de notre table. Alors, je prends comme ça. À ma gauche, j'ai Natacha Novera et Hélène Tilbury. Hélène, que vous aviez déjà entendue dans notre antenne, puisqu'elle était venue nous expliquer ce qu'est 8 d'entre elles, puisqu'elles sont là, représentatives de ce groupe de femmes qui s'est créé à Lausanne et qui... Ce sont des jeunes femmes qui se posent les questions autour de l'égalité et du monde dans lequel on vit en tant que femme. Est-ce que vraiment tout est réglé? Et si je caricature, Hélène et Natacha, vous insistez, vous intervenez. Et elles avaient organisé un colloque à Lausanne autour de cette question. Quelle égalité? Quel dessous de l'égalité y a-t-il? Et comment continuer peut-être à partir de certains constats que nous avons pu faire? Nous avons avec nous aussi Catherine Sumi qui est comédienne. Comédienne, que peut-on dire, Catherine, à Genève, en Valais, dans beaucoup d'endroits. Et que si nous lui avons proposé de se joindre à nous, c'est que lors d'autres interviews que j'avais fait avec Catherine, elle m'avait montré son admiration pour les propos qu'avait donné à maintes reprises Gabrielle Nunchen, entre autres dans d'autres livres qu'elle avait pu écrire. Et je pensais intéressant qu'on vienne partager, que Catherine puisse nous faire partager ce qu'elle avait ressenti aux propositions aux nouvelles propositions de Gabrielle Nunchen. Viviane Guenic, que vous connaissez bien évidemment sur notre antenne. Viviane, que nous avons invitée parce que Viviane participe à la lutte des femmes depuis longtemps et qu'elle réfléchit encore beaucoup sur ce que les femmes peuvent continuer à faire et à proposer dans la société d'aujourd'hui. Et puis nous avons Madame Denise Kessler, qui est... On doit féminiser les noms, mais ce n'est pas très élégant. On dirait mairesse, je ne sais pas si vous vous appelez comme ça, maire de la commune du Grand Saconnais, et qui est aussi conseillère administrative, secrétaire à la Caisse d'épargne et mère de 2 enfants. Ça a de l'importance de donner toutes ses occupations, parce que je crois que ça prend beaucoup de place dans sa vie. Et nous avons encore Martine Chaponnière, enseignante à l'Université de Genève, rédactrice au journal Femmes Suisses et auteure d'une thèse qu'elle va bientôt publier, n'est-ce pas Martine, c'est ça ? Qui, je crois, prendra le titre « Devenir ou redevenir femme ». Alors, Odette et moi, nous allons essayer de proposer quelques orientations pour notre discussion, mais comme elle vous l'a dit tout à l'heure, nos intentions aujourd'hui, c'est essentiellement de voir quel débat a suscité le livre de Gabrielle Nunchen, Amour et pouvoir, débat parmi les femmes, et voir comment ce que propose Gabrielle Nunchen résonne dans nos vies à nous, par rapport à ce que nous vivons nous et ce que nous avons envie de faire encore en tant que femmes. Alors, ce que j'ai d'abord envie de vous demander, c'est effectivement, à partir de la lecture de ce livre, qu'est-ce qui vous a questionné par rapport à ce que nous vivons nous aujourd'hui ? On parle d'égalité. Or, tout comme 8 d'entre elles qui disent qu'il y a des dessous de l'égalité qui ne sont pas très clairs, il y en a d'autres qui disent que l'égalité, elle est loin d'être réalisée. En fait, qu'est-ce que nous avons gagné? Qu'est-ce que nous n'avons pas encore gagné et que nous estimons encore devoir faire? Enfin, pour vous, comment cela se pose? Est-ce que vous pensez qu'il est temps de dire, ben voilà, les femmes ont obtenu ce qu'elles avaient envie d'obtenir? Alors, je ne sais pas si peut-être... Martine, qui a réfléchi beaucoup à la question, puisque elle a évoqué ça dans sa thèse, et elle se pose la question, le terme d'égalité, par exemple, à l'université est loin d'être acquis en tant que le nombre d'enseignantes qui peuvent participer aux tâches de l'université. Qu'est-ce que vous en pensez ?
J'ai le sentiment que ça dépend beaucoup des domaines dans lesquels on parle. C'est difficile de dire, il est temps de dire que l'égalité est réalisée, parce que vraiment, l'égalité s'applique dans un certain nombre de domaines, et puis moins dans d'autres. Par exemple, quand on parle d'égalité, notamment dans le monde du travail, je crois que vraiment l'égalité n'est pas réalisée. C'est pas parce qu'il y a une égalité de salaire, par exemple, entre les fonctionnaires, que l'égalité de salaire règne dans le privé, pour un travail de même valeur. C'est encore difficile aujourd'hui pour les femmes de faire carrière au même titre que les hommes, et je dirais même indépendamment des responsabilités maternelles et familiales, qui s'ajoutent à une situation qui est déjà difficile en dehors de ça. Il n'y a pas d'égalité non plus, alors au plan purement formel, par exemple, dans les assurances sociales, et l'égalité n'est pas réalisée. Je crois que ce qu'il faut dire, c'est que les femmes ne vivent pas l'inégalité de la même façon, et dans la vie quotidienne, cette inégalité, semble-t-il, se sent moins chez les jeunes, comme celles qui sont ici, vraisemblablement, nous le dirons par rapport à leur collègues et amis, et se sent plus en revanche chez les femmes qui ont 30 ans ou 40 ans et pour lesquelles se pose toute une série de problèmes d'aménagement dans la vie quotidienne. Je crois que c'est ça qui me semble en ce moment.
Oui, moi j'avais envie de demander justement à nos deux jeunes de 8 d'entre elles si elles ont l'impression qu'après 20 ans de lutte féministe, est-ce que la voie a été un peu bien défrichée ? Est-ce qu'il y a des acquis pour vous ? Il y a des choses que vous n'avez plus besoin de remettre sur le métier ? Il y a des choses acquises ?
Et disons que moi je ne peux pas dire. Comparé à avant, j'y étais pas. Donc c'est vrai que j'ai grandi dans cette pseudo-égalité. Donc j'ai pas de comparaison à faire. Enfin, je peux pas vraiment en faire. Tout ce dont on s'est rendu compte, en fait, les huit, c'est que non, cette égalité, on la vivait pas dans notre travail, dans nos relations avec nos copains. Mais je peux pas répondre à la question. Et puis comment c'était avant, moi j'y étais pas.
Mais est-ce que vous avez l'impression que les choses sont plus faciles aujourd'hui dans les luttes à mener ? Est-ce qu'il y a des revendications qui sont même plus nécessaires, des choses qui sont tellement évidentes pour vous ?
En tout cas, il y a une chose peut-être qui ne nous facilite pas de mettre sur la place publique nos revendications, c'est que justement on nous dit qu'on fait partie de la génération de l'égalité. Donc forcément, si on nous rabâche tout le temps ça, c'est un peu dur de... Je pense que la prise de conscience est plus dure à faire dans un tel climat. Et puis c'est aussi ce qu'on a remarqué parmi les jeunes, hommes et femmes, qui sont nos copains et nos copines.
Donc cette égalité qu'on vous a laissée, c'est presque un cadeau empoisonné alors ?
Ben, je crois qu'on nous a laissé effectivement des acquis au niveau égalité, que ce soit au niveau formation, au niveau de l'emploi, des possibilités de carrière. Je pense qu'on a effectivement plus de chances que nos mères il y a 20 ans, mais que les acquis qui ont été réalisés jusqu'à présent, qui ne nous ont pas encore vraiment menés à une égalité complète dans les faits, dans la mentalité, est utilisé maintenant contre nous pour dire « bon ben maintenant vous avez l'égalité dans la Constitution, c'est bon, il n'y a plus de problème ». Et je crois que particulièrement chez les gens de notre génération, entre 20 et 30, il n'y a pas de problème. Quand on essaye de dire « mais il y a un problème au niveau de la façon dont je suis reçue quand je postule pour un job, ou il y aura un problème plus tard quand j'essaierai d'avoir des gosses, de partager mes tâches ménagères avec mon conjoint », on me dit mais non, maintenant il n'y a plus aucun problème dans les relations hommes-femmes, dans les relations de travail, on n'est plus pénalisé si on est une femme. La formation est ouverte aux femmes. D'ailleurs, regardez, les étudiantes, il y a de plus en plus de femmes. Quand on fait remarquer qu'il n'y a pas beaucoup de professeurs femmes, par contre, on dit mais ça va venir petit à petit. Donc je crois que c'est un peu un blocage, quoi.
Viviane ?
Oui, moi, c'est le terme même d'égalité que je pense qu'il faudrait peut-être analyser, questionner, parce qu'on nous dit qu'on est de la génération de l'égalité. Alors, quelle égalité ? Pas seulement en termes de est-ce qu'on a gagné l'égalité, mais est-ce que c'est cette égalité-là dont nous parlions, dont nous voulons ? Parce que moi, trop souvent, l'égalité dont j'entends parler, c'est vous devez être comme des hommes. Vous devez être égal à des hommes. Et alors, on en vient peut-être à... Je saute une étape parce qu'on en vient peut-être à la question que pose Gabriel Lanchen. Est-ce que pour nous, l'égalité, c'est d'entrer dans ce territoire des hommes, de postuler comme des hommes, par exemple, postuler un travail. On doit presque être un homme dans ce lieu, faire semblant que non, qu'on peut assumer ses tâches, qu'on n'aura pas de problème avec nos enfants, nos familles. On est là, on a les mêmes... capacité, la même manière de faire, et c'est peut-être ça qui, moi par exemple, c'est ça qui me dérange dans ce terme égalité, c'est que comme on a voulu faire pour l'intégration des Noirs, on dit un Noir deviendra égal à un Blanc quand il se sera blanchi la peau, et des femmes seront égales des hommes quand elles se seront déféminisées en quelque sorte. Alors j'en viens à c'est la question de qu'est-ce que nous sommes et est-ce que nous sommes vraiment acceptés comme nous sommes partout. Et pour moi, ce serait ça l'égalité. Ce n'est pas prendre une autre peau. Et c'est souvent, moi, je sens ça qu'on nous demande.
Catherine, dans le monde des comédiens, dans le monde de l'art peut-être plus en général, est-ce qu'il y a aussi une drôle de forme de concevoir l'égalité ?
Oui, mais je crois qu'il y a une drôle de forme de concevoir l'égalité partout. Ce que je voudrais dire par rapport à tout ce que je viens d'entendre, je vais revenir à Gabriel Nanchen et à son premier livre Le Partage, où il me semble qu'elle proposait, et c'est ce qui m'avait enthousiasmé au moment où le livre est paru, un modèle de société complètement différent. Et ce qui m'a frappé, c'est que chaque fois que j'en ai parlé dans mon entourage avec des couples, des gens qui vivaient finalement les mêmes problèmes que tout le monde, ça provoquait une réaction absolument folle de la part des hommes, mais absolument hystérique. Hystérique dans le sens féminin du terme tel qu'il était appliqué jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'ils devenaient fous quand ils parlaient de ce bouquin, parce que ce qu'elle proposait, et c'est ça que je trouvais assez étonnant, c'était finalement d'accepter dans la vie de tous les jours ce qui fait la vie. C'est quoi ? C'est finalement quand on donne le jour à des enfants, on n'est pas toute seule à donner le jour à des enfants, on est en principe deux à les faire, et il se trouve qu'il n'y a que les femmes qui assument cette partie. Quelle éducation d'un enfant qui est dans l'amour et et que jusqu'à présent et encore maintenant, ce que je vois autour de moi, c'est que il y a peu d'hommes qui ont le temps de prendre le temps de regarder leurs enfants vivre et grandir. Pour moi, c'est une essence de la vie. Et pourquoi ? Parce que tout le système fait que les hommes, ils partent au travail le matin. En règle générale, moi, dans le coin où j'habite, à la limite, ils rentrent même pas manger à midi. Et puis, ils rentrent le soir, ils ont juste le temps de leur filer deux bises avant qu'ils aillent sous la couette. Et ce qu'elle proposait, c'était justement que la société essaye de prendre en compte, par exemple, ce problème bien spécifique et qu'elle accorde des temps partiels aux hommes comme aux femmes à certains moments de leur existence. Quand elle dit que elle est retournée à sa cuisine et à l'élevage de ses enfants, oui, parce qu'elle a dû le faire. Il y avait personne d'autre qui allait le faire à sa place. Et puis elle a accouché de ce deuxième livre. Et c'est là que moi j'ai un problème où je me dis que quelque part elle s'est quand même un peu endormie autour de sa sauce béchamel.
Madame Kessler, vas-y.
Non, juste Catherine, on veut peut-être pas trop rentrer avec trop de précisions sur le livre puisque Madame Gabrielle Nanchen n'est pas là, donc c'est un peu difficile de débattre. Mais pour reprendre ce que vous venez de dire, c'est intéressant de poser la question à Madame Kessler, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, vous êtes mère, vous avez une profession, vous travaillez, et vous êtes aussi mère de deux enfants. Donc on se dit, c'est beaucoup de choses, vous cumulez énormément de choses. Est-ce qu'un homme pourrait le faire ? Ou est-ce qu'un homme voudrait le faire ?
Alors, pour l'instant, je ne connais pas d'homme qui le fasse, disons d'homme de ma génération.
Mais pour revenir à ce que disaient ces jeunes filles,
elles vont pas aimer qu'on les appelle si jeunes finalement.
Mais elles sont d'une autre génération. Des progrès ont été faits, en effet. Moi, je me souviens, lorsque je travaillais dans l'administration fédérale, j'avais 18 ans, 19 ans. Lorsqu'une femme se mariait, elle devait quitter l'administration fédérale. Elle ne pouvait plus travailler. Je me souviens d'avoir été affreusement vexée. Il fallait donner des justificatifs, par exemple avoir un mari qui lui faisait des études, n'est-ce pas, qu'il fallait financer. Ça a été peut-être ma première révolte féministe. C'était dans les années 50-53. 54, il y a donc très longtemps. Donc là, il faudrait dire qu'il y a eu en effet un chemin parcouru. Je me souviens que ma maman, lorsque je me suis mariée, je suis allée alors ensuite travailler dans le privé où c'était possible pour les femmes mariées de travailler. Je sais que ma mère a été blessée parce que dans sa génération à elle, le mariage était peut-être parfois une promotion. Et d'avoir sa fille qui travaille malgré son mariage, ça voulait donc dire qu'elle n'avait pas fait un très beau mariage. Donc vous voyez le chemin parcouru, j'entends. Il y a eu vraiment des efforts. Il y a eu le droit de vote ensuite. Moi, je n'habitais pas Genève à cette époque. J'habitais la Suisse allemande. J'étais très fière de pouvoir dire partout que j'étais suisse romande. Donc il y a eu un progrès. Et je voudrais que les femmes de ma génération qui ont vécu ce progrès et qui ont eu cette volonté d'égalité, qui ont eu cette révolte parfois, cette révolte au cœur, j'espère qu'elles ont commencé par éduquer leurs garçons et leurs filles de la même façon. Je crois que c'est là qu'a commencé l'égalité. Cette égalité qui a causé, moi je sais que mon fils a eu des difficultés à l'école parce qu'il s'est révolté, parce qu'il avait horreur de jouer au ballon et il ne voyait pas pourquoi il ne pouvait pas aller aux travaux d'aiguille ou autre. Et là il y avait une réaction, comme vous dites, hystérique des hommes de ma génération qui ont une frayeur épouvantable de l'homosexualité, pour qui le travail d'aiguille voulait dire féminiser ses enfants. Et là, je pense que ça, c'est une lutte que les femmes de mon âge ont dû faire jour après jour dans l'éducation de leurs enfants, de façon à, lorsqu'ils ont mes enfants, ma fille à 29 ans, mon fils à 25 ans, de façon à ce qu'on puisse voir avec satisfaction que vive cette égalité, vive aussi ce partage des tâches dont parlait Gabrielle Nanchen, qui était en effet une chose difficile à accepter, mais je vois maintenant des jeunes couples qui ont envie de ce partage. Et je dirais que parfois, la tâche est presque plus difficile pour un homme, parce que souvent, un homme qui postule et qui dit « Écoutez, je veux un congé de maternité », par exemple, ou qui dit « Moi, je voudrais avoir congé le jeudi parce que ma femme a une profession qui la fait travailler le jeudi et moi, je veux être avec les enfants », je crois qu'il sera encore plus difficile pour lui d'être accepté selon le patron qu'il a en face de lui et qui n'est pas préparé à ça et qui aura peut-être tendance, je reviens aux hommes de ma génération, à dire « Mais qu'est-ce que c'est que cette femmelette, n'est-ce pas ?» là, étant acquis que cela n'était pas tellement viril de langer un bébé. Alors, pour ne pas être trop longue, moi j'ai retrouvé Gabrielle Nanchen dans son dernier livre. J'ai été très étonnée. Bon, moi je n'ai pas fait son parcours et je n'ai pas démoli autant de barrières. Alors je me disais, mais dans le fond, on a le même bilan.
tout en ayant eu un autre chemin. Je me souviens que j'avais été à une table ouverte avec elle lorsqu'il s'agissait de du droit matrimonial, et j'avais beaucoup regretté de ne pas poursuivre la conversation parce que je la trouvais beaucoup plus féministe, beaucoup plus agressive que moi, qui ne suis pas, disons, une grande, comment est-ce qu'il faudrait dire, malgré mon signe du bélier, qui ne renverse pas trop de choses acquises. Alors, voilà pour faire tout ce chemin que je peux vous dire, et l'étonnement, en effet, pour moi. J'ai d'autres amis politiques qui sont du même parti qu'elle, et qui, nous avions une discussion il n'y a pas longtemps, et qui me disaient, elle nous a trahis. Alors moi, je n'ai pas eu cette impression, parce que j'ai peut-être fait un peu un même chemin qu'elle. Je n'ai pas eu l'impression de la trahison, et j'étais très surprise d'entendre ça, parce que je ne l'avais pas vue comme ça.
Mais peut-être pour revenir, Mme Kessler, à nos impressions, à nous, et pas forcément ce que les autres ressentent par rapport à Gabriel Nanchen comme tel. Vous êtes ce qu'on appelle 13 aujourd'hui et non pas en 1950. Enfin, on serait tenté de dire que vous êtes une superwoman puisque vous faites tout en même temps. Vous travaillez, vous avez un engagement politique, vous avez éduqué vos enfants. Est-ce que c'est justement, comme disait Viviane tout à l'heure, l'égalité que nous souhaitions, de voir tout faire? Ce que l'on a envie, ce que l'on doit faire, au prix parfois d'une course contre la montre qui n'est pas toujours très tenable. Et si je me souviens bien, Natacha Helen, c'est aussi ce qui vous gênait dans la fameuse égalité. Au fait, ok, on a le droit de choisir de travailler, on a le droit de faire des enfants, mais il faut assumer tout ça en même temps. Alors, est-ce que par rapport à ce rôle qu'on nous fait jouer de superwoman, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut et qu'est-ce qu'on aimerait plutôt ? Comment nous, on sous-entend, on aimerait voir l'égalité qui ne serait pas celle qu'on nous a donnée, qui est peut-être de faire comme les hommes, plus comme les femmes.
Oui, comment vous avez vécu ce marathon? Parce que ça ressemble un peu à un marathon, oui. Tout ce que vous avez fait.
Oui, c'est vrai, c'est un marathon, mais je ne me suis pas rendu compte que c'était un marathon, parce que j'ai eu peut-être le privilège de démarrer dans ma commune. C'est une chose très vivant, une commune. C'est une chose que vous avez l'impression que vous pouvez l'empoigner, n'est-ce pas? Parce que vous connaissez les habitants, vous avez envie. J'entends, moi j'ai commencé par me battre pour des places de jeu. C'est dans la réalité quotidienne d'une maman. J'avais cessé de travailler pendant quelques années et je me suis trouvée pour la première fois de ma vie dans un quartier ayant fait mes achats. Et alors ça devait être dans ma nature, je pense.
Mais est-ce que vous deviez faire plus que vos collègues masculins, par exemple?
Alors, une fois que j'ai commencé dans la politique, il a fallu d'abord prouver. Il faut d'abord prouver qu'on peut être aussi bonne. Je dirais même meilleure, parce que on nous passe rien, n'est-ce pas? Une femme qui est mauvaise, qui fait une mauvaise intervention, qui peut-être hésite dans une question ou dans un débat, on dit elle ferait mieux d'aller préparer sa choucroute, n'est-ce pas? Ou faire son marché, selon. Tandis qu'un homme, on dira, ben, il n'était pas très en forme aujourd'hui. Alors, moi, je personnellement, j'aurais presque pris un peu un complexe de supériorité en me disant, mais on est meilleur, finalement. On est meilleur parce qu'on doit se mettre sur la sellette nous-mêmes, on doit se critiquer. Alors, moi, j'ai vécu ça un peu peut-être comme un jeu, avec des enfants qui ont compris mon engagement, et des enfants qui ont bien compris mon engagement, qui étaient derrière moi. Et donc, c'était plus facile parce que c'est venu, si vous voulez, en douceur. Et le marathon, je suis entrée dedans sans m'essouffler, probablement. Je ne me suis pas tellement rendu compte que je courais.